Alain Bashung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux Victoires de la Musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la huitième des 10 émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain Bashung.
Les radios francophones publiques présentent
Alain Bashung.
De l'aube à l'aube.
De l'aube à l'aube.
Alain Bashung, De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golan avec, aujourd'hui,
Chloé Mons, chanteuse, actrice.
Jean Fauque, auteur de chansons.
Olivier Caillard, je suis directeur général du label Barclay.
Jean Lamotte, ingénieur du son, réalisateur.
Christophe Calpini, musicien.
Fred Achadorian, musicien.
Arthur Bashung, le fils d'Alain.
Avec aussi Anne Lamy, chef de projet chez Barclay, et Rodolphe Burger, musicien. Bashung.
Bashung.
De l'aube à l'aube. Sur France Inter.
Huitième épisode, l'ultime imprudence de Monsieur Bashung. Nous sommes au début des années 2000.
Archive Radio France.
D'un seul coup, on fait une rencontre et puis on balaye tout. On se dit, j'apprécie le présent aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant.
Chloé Mons, dernière épouse d'Alain Bashung.
Ma rencontre avec Alain, ça se passe d'une façon évidente. Je rentre sur le plateau de tournage et je vois Alain au loin. Puis je me dis que cet homme est pour moi. Et c'est évident pour nous deux. 3 jours après, on était ensemble et on s'est plus quittés jusqu'à la fin, pendant 12 ans.
Rodolphe Burger, chanteur et guitariste.
Il rencontre Chloé sur le tournage d'un clip tourné par Jacques Audiard. Et ils ont popé, ils ont un enfant, une petite fille ensemble. Et un jour, ils décident de se marier et Alain m'appelle. Il me dit, j'aimerais bien que tu t'occupes de ma cérémonie de mariage. Enfin, que tu m'aides à inventer quelque chose. J'ai pas envie d'une cérémonie religieuse, et d'ailleurs, il n'y avait pas le droit. Il était divorcé, Chloé n'était pas baptisée. Mais il avait trouvé un Audingan, donc dans un village du Nord-Pas-de-Calais, une petite ville où la famille de Chloé avait une maison de week-end. Il avait trouvé un curé qui avait l'air d'accord pour prêter l'église, pour qu'il y ait lieu une cérémonie qui serait pas donc un office religieux, mais qui serait quand même, il voulait quand même que ça ait lieu dans une église. Et donc, il s'agissait d'inventer une forme.
Chloé Mons.
On avait envie d'être dans un lieu comme ça, sacré, quoi. Qui parle de l'au-delà, plus qu'une mairie. Voilà. Et le curé a très bien compris ce qu'on voulait. Il nous a dit, écoutez, vous pouvez venir, je vous accueille dans mon église, faites ce que vous voulez.
Rodolphe Burger.
Il pensait, lui, évidemment, des textes, des extraits de poèmes et des choses comme ça. Et alors il me dit, mais ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on enregistre une maquette. Et donc, on prend rendez-vous chez moi à Rubichan, et je prépare la séance, la venue d'Alain et Chloé. Je pense à un texte, à la traduction qu'Olivier Cadio venait de faire du Cantique, une traduction magnifique. Et donc, évidemment, je propose ça à Alain et Chloé, et je fais une musique en prévision de ça, la veille, comme ça, une boucle... avec une petite idée de progression, mais presque rien, mais de quoi faire un essai comme ça de lecture d'un bout de ce texte. Et il se passe une chose absolument incroyable, ce qui est que Alain et Chloé viennent, je mets derrière le micro, et on lance la chose, et ce qui devait être un petit extrait de 2 minutes, on n'a tout simplement pas pu l'arrêter. C'est-à-dire que on est allé au bout du texte, et on a fait une version de 20 minutes. On était embarqués, quoi. Ça a été un moment vraiment incroyable. Et c'est devenu la cérémonie.
Des baisers, oh, des baisers de sa bouche. C'est très bon, tes amours de toi, mieux que le vin. Comme odeur, tes parfums sont si bons. Un parfum s'impose, c'est ton nom. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Emmène-moi. Allez, courons après toi. Le roi m'a fait entrer dans ses chambres. Joie pour nous, joie par toi.
Cette maquette, c'est un premier jet. Comment ça s'est passé?
Mais ça s'est passé très simplement, mais simplement, il y a des choses qui vous échappent dans la vie.
Chloé Mons.
Quand on s'aime, ça se sent, je pense, simplement. L'amour, c'est quelque chose de très gracieux qui est là. Donc oui, c'était un moment... on se préparait à se marier, c'était très exaltant. On a dit ce texte, c'était très profond de se dire ces mots-là, quoi. Et pour lui comme pour moi, je pense que c'est ça qui s'entend sur cette bande.
Te voilà si belle, mon ami. Te voilà si belle. Tes yeux, oh, des colombes.
Te voilà si beau, mon amour si gracieux. Notre lit si frais. Les poutres de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris des cyprès. Moi, je suis la rose du charron, le lys des vallées.
Le cantique commencé est un texte particulier dans la Bible, c'est-à-dire c'est... les théologiens n'ont jamais trop su quoi en faire. C'est quand même un texte qui est un éloge de l'amour physique, sensuel, qui donc il n'y a aucune ambiguïté possible. Et puis il n'est pas question de Dieu, sauf à considérer que le fiancé c'est la divinité. Et donc on peut aussi bien le lire comme une espèce d'apologie de l'amour et en faire une lecture qui n'est pas du tout religieuse ou théologique. Donc c'est le choix de ce texte, évidemment, n'est pas différent.
Chloé Mons, dernière épouse d'Alain Bachung.
Lui et moi, on était pareil là-dessus. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout en Dieu. Par contre, la foi, j'ai la foi en la foi, voilà. Je pense que c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Je pense que c'est très important. Mais ce n'est pas nécessairement une religion. C'est-à-dire qu'on croit en la vie, on croit en l'amour, on croit en la musique, on croit en ce qu'on fait.
Si on vous demande qui êtes-vous, Chloé, qu'est-ce que vous répondez ?
Qui je suis ? Ouais. Ben non, une femme libre, oui. Libre, absolument. Une artiste, toujours en mouvement, oui. Toujours en train de créer des choses. Je dirais que je suis une chercheuse, j'expérimente. Je suis dans mon laboratoire, je fais des trucs, voilà.
C'est un point commun que vous avez avec Alain. C'est le laboratoire, c'est la recherche. C'est comme une condamnation, la recherche.
Est-ce que c'est une condamnation ? C'est vrai, parce qu'on n'a jamais fini, c'est vertigineux, et c'est vrai. Et c'est vrai qu'avec Alain, on aimait bien parler de tout ça, on aimait bien écouter des gens qui faisaient des expériences incroyables. C'est vrai qu'Alain, ça a toujours été un chercheur, c'est pour ça que son œuvre est faite d'albums très très différents. Parce qu'une fois qu'il était allé bien dans un sens, il allait dans un autre, parce qu'il cherchait, quoi.
Et il cassait.
Il cassait pour revenir... Oui. Il n'avait pas envie qu'on l'emprisonne dans une image. Et moi, ça, je comprends. Moi, j'aime pas ça non plus. Les artistes, ils ont pas... On n'a pas à être enfermés, quoi. C'est insupportable, en fait. Donc, on est des chercheurs toujours. Ça s'arrête jamais. Toute notre vie, quoi.
C'est le prix de la liberté.
C'est le prix de la liberté, ouais. On nous le fait payer un peu, quelquefois, mais, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
Archives Radio France.
Quand on mène une vie d'artiste, il faut quand même se dire bon, c'est pas un truc de fonctionnaire, ou de, c'est pas une retraite à vie, ou c'est quelque chose avec des hauts, des bas, des chaos. Il n'y a pas beaucoup d'artistes, j'en connais pas, qui ont vécu d'espèces de trucs linéaires et qui sont intéressants, je sais pas.
Écrante-t-elle sur les pores de ma peau? Écrante-t-elle sur nos remords? Que dire sinon s'enduire de tous les crimes? J'ai vu le ciel tourner au violet et les filles se faire aimer. La mort dans l'âme, c'est la chaleur humaine. Désormais, je me dors à tes rires, je me dors à tes nerfs, à la tyrannie du jour. Désormais, je me dors à tes rires, Je me dors à tes airs, à tous les luminaires, à l'endroit, à l'envers, à la chaleur humaine. Mes amours, je les ai sur le bout de la langue, elles me reviennent à chaque frontière. Langue morte, langue de vipère, langue familière. La fermer, se taire, l'ouvrir, ça va sans dire. Désormais, je me dors à tes rires, je me dors à tes nez. Désormais, je me dors à l'endroit, à l'envers, à la chaleur humaine. Missile a élu domicile à l'hôtel de l'oiseau lyre. Que dire de ces oui dire? C'est la chaleur humaine. Désormais, je me dors à tes rires, je me dors à tes nez, à la poussière des météores, à la chaleur humaine. Désormais, je me dors à la crypte des monastères, je me dors à l'ordinaire, à ton bouvet.
Bachung, de l'aube à l'aube. France Inter.
Aujourd'hui, l'ultime imprudence de M. Bachung.
Olivier Caillard, directeur du label Barclay.
Je pense qu'on a eu une petite mésentente sur l'imprudence. Moi, je lui ai dit très sincèrement, j'étais content qu'il fasse cet album. De toute façon, Bachung, c'est pas quelqu'un à qui on disait, voilà, tu te trompes de direction. Je lui avais dit, en revanche, t'as besoin de faire cet album-là. Je pense qu'il touchera un public beaucoup moins large. Ce qui a été le cas à l'imprudence. Non seulement il a vendu 4 fois moins que le précédent, mais j'avais beaucoup de retours de gens qui disaient, bon, j'ai acheté cet album, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de mélodie, qui n'ont pas très bien compris la démarche d'Alain. Et Alain, lui, s'en foutait. Il voulait faire ce disque, qui était vraiment un disque de transition, hein. C'était pas un disque l'imprudence, c'est pas un disque qu'on écoute très facilement. Faut un certain état d'esprit. Mais voilà, c'est pas quelqu'un à qui on pouvait donner des directions. Il savait encore une fois exactement ce qu'il voulait faire.
Anne Lamy, chef de projet chez Barclay.
En fait, je me rappelle, il m'appelait en juillet, je crois que c'était 2001, pour me dire, Anne, on part sur un nouvel album. Trouve-moi des bidouilleurs. Bah oui, d'accord. Il me dit, oh ben, j'aimerais... On part dans l'esprit, Scott Walker... Je dis Scott Walker, je dis mais tu veux bosser avec des gens qui ont bossé avec Scott Walker ou avec Scott Walker ou enfin dis-moi, explique-moi. Oui, on part dans ce sens-là, on part dans ce sens-là. Je suis bon, d'accord, ok. Donc je le rappelle 4 jours après, je dis écoute, voilà, je connais quelqu'un qui est directeur artistique aux éditions chez Universal qui travaille avec Scott Walker et si tu veux travailler avec lui, lui a demandé, ben il serait d'accord. Ne fais jamais ça, jamais, jamais. C'est un mythe. C'est quelqu'un que je respecte au plus haut point. Et non, je ne travaillerai pas avec lui. Je peux pas, malgré l'envie. Mais t'imagines, si je le rencontre et que ça fait pas, mon mythe se casse, se brise. Et voilà, je serais très déçue. Je préfère pas prendre ce risque. Marrant. Donc voilà. Et je pars à Genève. J'avais un ami là-bas qui avait un magasin de disques qui s'appelle Marco Leschaud. Et je lui dis, ben... Fais-moi écouter un petit peu tout ce que t'as là de nouveau, enfin, ce qui se passe en Suisse, etc. Enfin, il faut que je revienne avec des disques pour faire écouter Alain parce qu'il a envie de découvrir des groupes un peu nouveaux et avoir des expériences avec des gens qui vont le surprendre un peu. Donc lui me dit, bah écoute, voilà, Mobile in Motion, écoute et tu me diras. Et quand on a écouté avec Alain, je suis revenue de là-bas, il a adoré. Il me dit, mais eux, il faut absolument que je les rencontre, j'adore, je veux absolument les rencontrer. Et donc on a organisé une petite rencontre chez Alain, avec Fred Alchadorian et Christophe Calpini. Ça a tout de suite fonctionné avec Alain et eux. Et donc Alain a décidé de venir en vacances à Nyon, chez eux. Et donc, ils sont partis pour être tous très imprudents, tous ensemble. Voilà.
Christophe Calpini, du groupe Mobile in Motion.
L'imprudence, en fait, je crois que le disque porte vraiment bien son nom. Quoi. Comme il dit au début, laisse venir l'imprudence. Je crois que toute la démarche, elle est dans le titre quoi, du disque. Donc, l'ensemble du disque reflète le titre. Il me semble que c'est un beau disque maintenant qui est très souvent a été catalogué comme noir et compliqué. Peut-être maintenant, on n'a plus trop de possibilités de faire des disques comme ça. Il faut que ça fonctionne directement, qu'il y ait le refrain. Il y a des dictats de commerce qui sont assez puissants. Mais je trouve que c'est bien que des fois, il y ait des artistes qui aient la possibilité de pouvoir encore se permettre de prendre des risques et faire des disques poétiques qui sont hors des dictats actuels.
Fred Achadourian, membre du groupe Mobile in Motion.
C'est le disque qui peut pas être sorti de la discographie de Bachung. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'il y a eu avant. Il a fait plein de styles différents, finalement, si on écoute un peu. Puis alors, arrivé à celui-là, au moment de faire celui-là, est-ce qu'il s'est dit, alors, est-ce que c'est l'imprudence commerciale, l'imprudence artistique, l'imprudence humaine, j'en sais rien, mais, ou un peu de tout ça mélangé, peut-être. Mais au final, j'ai l'impression qu'il voulait vraiment se faire plaisir aussi. Sans aucun calcul de quoi que ce soit, ni commercial, ni artistique. Tout était complètement ouvert. Et puis advienne que pourra, quelque part. Hein. C'est un peu un saut dans le vide, quoi.
Continent à la dérive. Qui m'aime me suivre. Gouffres avides. Tendez-moi la main.
Jean Fauque, parolier.
L'imprudence, bien sûr qu'Alain en était fier. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa carrière, et c'est ça qui est admirable, et c'est peut-être un exemple unique en France, toujours ses remises en question artistiques, ses remises en cause. Et là, il avait atteint le summum de l'expérience, faire encore une autre expérience. Oui, il était fier et très touché, que même si ça n'a pas été un truc à être bastonné à la radio, par la dithyrambe qui en a suivi, qui l'a envoyé sur des sommets. C'est ça qu'à un moment, il y avait déjà Fantaisie bien sûr, mais qui y a donné cette espèce de d'aura qu'il a monté dans des sommets presque inaccessibles, et d'aura de poésie et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu une critique quasiment unanime, ou même moi j'étais vert.
Olivier Caillard, directeur du label Barclay.
C'est un album de rupture, clairement. Et Alain avait besoin de cette rupture à ce moment-là. Il était hors de question pour lui d'enchaîner sur des titres plus faciles comme ceux de Fantaisie militaire.
Anne Lamy, chef de projet.
Les mots, c'était on déstructure, on casse, on brise, on reconstruit. Cet album, c'était, et ça je tiens vraiment à le dire, c'est très, très important. Pour lui, c'est je ferme une porte. Il voulait fermer une porte avec cet album. Je pense que c'était quelque chose dans sa vie sentimentale qui était très important. Et il fallait qu'il sorte.
Olivier Caillard.
La gestation était très très douloureuse. Ça a été mixé, remixé, retravaillé. Et la manière de travailler est très bizarre aussi. Sur l'imprudence, il envoyait des bouts de chansons, des bouts de voix à une dizaine d'artistes. Chacun renvoyait son travail, la mise en musique, la recherche de mélodies. Et lui a mélangé tout ça. C'est-à-dire que 10 propositions de chansons pouvaient faire une chanson. D'où ces morceaux déstructurés, sans mélodie très accrocheuse, très accessible. Et c'est la première fois qu'il a travaillé comme ça. C'est-à-dire avec autant, en faisant appel à autant de collaborateurs. C'était impressionnant comme méthode de travail. Il y a une foule de gens qui ont travaillé sur cet album. Certains, rien n'a été gardé. Certains, un mot. Certains, un refrain. Certains, un pont. Et il a mélangé tout ça.
Archives Radio France.
Comment est né cet album? Vous faites d'abord les textes ou d'abord la musique? Comment s'est construit ce disque?
Ça part des textes qui donnent une humeur, qui donnent un ton. Hein. Et ensuite, j'ai parfois le choix entre des choses opposées presque. C'est-à-dire le même texte, par exemple, chanté avec un tempo assez rapide, peut donner une idée de cynisme presque, ou peut être un peu virulent. Ou... Et le même texte, chanté avec des choses vaporeuses ou éthérées, peut devenir complètement sentimental.
Christophe Calpini, membre du groupe Mobile in Motion.
Ce qui nous a donné à Paris, c'est que la voix, sans rien d'autre. Il y a peut-être une indication de tempo, je crois, mais on n'a même pas respecté, je crois, à chaque fois. Donc, il nous a juste laissé sa voix. On entendait derrière des fois des bribes de guitare, ce qu'il enregistrait chez lui. Hein.
Fred Achadourian, membre du groupe Mobile in Motion.
Il y avait très peu d'indications harmoniques. C'est l'album le moins chanté de Bashung. Tout le problème, c'était de pas bouffer les textes, de pas noyer les textes sous une armada de sons électroniques et de violons, quoi. Et d'essayer d'y coller au plus près, ou alors, au contraire, de faire de l'aigre-doux.
Christophe Calpini.
On a essayé de faire avec des sons synthétiques, des violons qui fonctionnent, mais pour ça, je pense, faut pas que ça ressemble vraiment à des violons, quoi, finalement, en fait. C'est plus des textures qui peuvent amener une image, quoi. Montrer, voilà, c'est plus une couleur que faire que ça ressemble vraiment à un vrai instrument.
Jean Fauque, parolier.
Quel chantier. Hein ? Quelle construction, bah, cet album symphonique. Alors moi, je brassais un peu parce que je disais où est le single. Moi, j'avais un point de vue. Des fois, moi, avec Alain, ce qui est équilibré, c'est que j'avais peut-être aussi un point de vue d'auditeur. Pas assez musicien pour rentrer au cœur du truc comme il pouvait le faire avec ses musiciens ou ses réals ou les ingé-sons, mais l'oreille de l'auditeur moyen et dire merde, où est le single, quoi. Et puis sachant aussi que c'est toujours un single qui drivait, comme on avait eu la chance d'en avoir trois de suite entre Osée Joséphine, Ma petite entreprise et La nuit je mens, je me suis dit où est le single qui va driver l'album. Mais elle arrivait très content parce que ce serait un album culte, enfin il l'est déjà. Je me souviens d'un truc, c'est quand je suis revenu avec la copie mixée, quand je suis rentré dans ma cambrousse, et puis qu'un soir de printemps, de début d'été, j'ai passé ça dans le jardin avec mon ami Litziling, qui chante et qui connaissait bien là aussi. Je me souviens qu'on s'est fait quand même une espèce de voyage comme ça, ça allait magnifiquement avec les étoiles et tout, et on a écouté ça à 1h du mat, et c'était fabuleux, et là ça m'a vraiment vraiment emporté. Je me suis dit non, il y a quand même allez, j'enlève toutes mes petites remarques, et c'est génial d'avoir fait ça.
Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis. Dans quoi tu te mires? Dans quel étang? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir. Tu l'auras toujours ta belle gueule, tu l'auras ta superbe, à défaut d'éloquence. Tel Machiavel, telle la belle ganse, Tel Guillaume Tell. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. Tu perds ton temps à te percer un jour. Devant l'obstacle, tu verras, on se réveille. Tel Perceval, tel Casanova, tel Harvey Keitel. À l'avenir, laisse venir, laisse venir.
France Inter, Bachung.
De l'aube à l'aube.
Aujourd'hui, l'ultime imprudence de Monsieur Bachung.
Arthur, fils d'Alain Bachung.
Quand il allait en studio avec ses musiciens, ses ingénieurs, tout était encore possible. C'est-à-dire que tout était écrit, lui avait déjà une structure dans sa tête, mais néanmoins, tout l'album qui pouvait en sortir pouvait être complètement différent et même lui échapper à lui aussi. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faisait travailler ses musiciens en studio non-stop, en leur faisant faire ce qu'ils veulent. Puis lui, il se mettait au carrefour, il écoutait, et puis voilà, il retenait. Et voilà, on avait vraiment l'impression... Moi, la dernière fois, c'était Imprudence, le dernier studio où j'ai suivi son boulot à ICP. Et même là encore, 15 ans après, c'était toujours la même chose. Il était assis à table, et puis les gens allaient et venaient dans le studio, jouaient, discutaient... fumait, buvait, jouait au billard, mangeait, et puis lui était là, et puis il réfléchissait.
Jean Lamotte, réalisateur.
Alain, à ICP, c'est un Alain concentré, à table, devant la cuisine du studio B, souvent devant la télé éteinte, avec ses lunettes de soleil, ses paquets de cigarettes, sa bouteille d'eau, et passer des heures en solitude, à écouter ce qui se passait dans la cabine. C'est un Alain générateur dans le silence, quoi. Un Alain impérial qui n'a plus besoin de parler. Il pouvait calmer, rassurer, être un bon papa.
Assez souvent, quand on décrit les séances d'enregistrement, il y avait une espèce de bonne humeur incroyable qui traversait un peu les studios et les gens qui y étaient, alors que le contenu des chansons est tout sauf ça.
Bah oui.
Arthur Bachung.
Ce qui faisait cette bonne humeur en studio, je pense que c'est déjà cette liberté que découvrent les musiciens et les ingénieurs du son qui travaillent avec lui. Donc déjà, il y a cette espèce de c'est une cour de récré, quoi. C'est pas on va en studio travailler, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc les gens qui ont l'habitude de faire du studio, déjà, en arrivant là-bas, ils n'ont plus l'impression de faire ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont l'impression d'être en colonie de vacances. Bon, mon père, même s'il était très perfectionniste et qu'il pouvait être très dur avec les gens avec qui il travaillait si ça correspondait pas à ce qu'il leur avait demandé, il était quand même très cool. Il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas de rapport de force entre eux. Il y avait un rapport de confiance, et puis la première chose que mon père leur demandait quand ils travaillaient avec quelqu'un de neuf, c'était vraiment de désapprendre donc ce qu'ils avaient appris. Donc c'était du jeu pour des mecs qui sont passionnés de son et de musique, c'est inespéré, donc ça m'étonne pas que ça engendre une espèce d'euphorie générale. Et puis la vie de studio, c'est quand même particulier aussi, on est complètement choyé, on est nourri, on boit, on mange, on dort... Tout le monde tous ensemble, toujours dans un beau cadre, et puis voilà, tout est fait en sorte que vous soyez bien pour faire de la musique. Donc si derrière ça on vous laisse toutes les libertés que vous voulez, bah voilà, vous êtes comme un enfant à la cour de récré, sans les parents et personne pour vous surveiller. Et la maison de disque restait sur Paris, et puis quand il venait, c'était calme.
Jean Lamotte, réalisateur.
On ouvre la porte du studio et... Simon Edwards est avec ses 18 basses, ses microscopiques amplis. Martin Baker est avec sa batterie, avec ses toms toujours super accordés. On avait loué un micro qu'on pouvait plonger dans l'eau, donc on avait pris une bassine d'eau. Il jouait des chaînes à l'intérieur, il faisait bouger des chaînes à l'intérieur de l'eau sur des prises de chansons que je mettais 2 octaves en dessous. On mettait la bassine d'eau avec le micro dans l'eau devant sa grosse caisse et on avait vraiment un son de bassine d'eau, c'était fantastique. On faisait des clapotis, Simon avait ses gameries marocains, ses basses mexicaines, ses baby basses contrebasses. Mino jouait des casseroles, Mino jouait de toutes ses perques dont il est complètement maître. Ludovic Bourse avait repéré le punching ball dans la salle de sport d'ICP, avait commencé à faire tourner ça. On avait descendu un micro pour enregistrer le queen girl que provoquait la chaîne en tournant le punching ball. Bon voilà, tout était... Chaque délire qui avait du sens était important.
Quand même. Hein.
Jean Fauque, parolier.
Et puis on dit jamais assez finalement, dans ces heures où ils se font taper dessus partout, même s'ils n'étaient pas non plus tout à fait d'accord sur la direction, et ben la maison de disque a payé, l'album a coûté une fortune, parce que c'est des budgets colossaux, qui maintenant, à mon avis, n'existeraient plus, hein, c'était encore 10 ans. Et puis, ils ont été jusqu'au bout sans rechigner. Et puis c'est très bien.
Jean Lamotte, réalisateur.
On rentre tous dans le processus de création. Moi, je les conforte quand je sens que c'est vraiment bien. Je leur fais super à travers la vide comme ça. On en refait une. Je dis que bon, que c'était super, peut-être on peut faire mieux encore. Que l'esprit, c'est là, ne changez rien. On en refait une, en général c'est la bonne. On vient écouter. Là, Simon Edwards dit qu'il entend, il sent son gamerie marocain. Et dans le pont là qu'on a laissé vide, commence à jouer du Guémery. Je mets le micro devant, on enregistre le Guémery et d'un seul coup surgit Alain Bashung à travers l'autre vitre qui est côté de sa cuisine et qui vient nous faire super comme ça et repartir hélico. Voilà le genre de communication qu'on pouvait avoir. Donc Alain, il écoutait de loin tout ce qui se passait toute la journée et on faisait jamais de bilan, mais quand ça allait pas, on en parlait un peu. Et souvent le soir, après manger, une fois que les tensions de la journée étaient passées et que la nuit était arrivée, alors il rentrait dans le studio, on écoutait, et là il pouvait donner 2-3 détails de choses, mais qui étaient toujours super importants. C'est un point, lorsqu'il aimait une version, on l'aurait écouté 40 fois de suite. Et voilà, on s'imprégnait, on communiquait dans le silence, dans la poésie, c'était quelque chose de très naturel, parce que ce qu'Alain propose, c'était toujours tellement fort, tellement chargé, des textes tellement incroyables que lorsqu'on les écoute vraiment, la première fois, on pleure souvent, en fait. Et donc, à partir du moment où on pleure sur quelque chose, on a ressenti une émotion tellement forte que on est obligé de faire en sorte que tout ce qu'on va enregistrer sur cette chanson-là, ce soit juste et fou. Après, lorsqu'on était dans des versions trop barré, Jean Fauque nous rappelait à l'ordre. On en parlait, et puis je disais, mais ta gueule. Puis voilà, et puis on en rigolait une heure après, quoi. Ou le lendemain.
Jean Fauque, parolier.
Alors Alain est aussi dans une vie plus famille. Il y a Chloé Mons, sa nouvelle épouse qui est là, il y a la petite Popée qui est là. Et puis il y a l'appartement à Bruxelles, et puis il a aussi envie peut-être de passer aussi des moments avec sa petite fille et tout, et ça c'est très compréhensible. Et donc c'est vrai que le soir, il est pas souvent là. Alors j'ai ce souvenir de... Ouais, j'aimais bien les nuits avec Jean Lamothe et Ludo aussi souvent, qui était très présent, Ludovic Bourse. C'était assez intense, mais on avait l'impression que justement que c'était un peu une lourde responsabilité, qu'Alain avait un peu démerdez-vous, lâchez un peu la maison, genre surprenez-moi, allez où, à la limite où je veux pas aller. Je me souviens juste des fois qu'il y avait certains castings tous lesquels j'étais pas hyper raccord, j'étais pas très fan, ils disaient ça joue trop décomposé rythmiquement ou quoi. Et un jour, il y a le Alain avec son petit sourire en coin, il se barre du studio et il me dit, ça à la fois m'a fait rire, m'a un peu paumé. Et surtout, Jeannot, empêche-les de faire du jazz rock. Et là, je crois que ma réponse, ça a été, j'y arrive pas. Je peux pas les empêcher, je peux plus rien faire. Et on a ri, et on a rigolé. Et on se marrait. Et puis avec Jean, c'est un type formidable et tout, c'était super.
Jean Lamothe, réalisateur.
Alain, il laisse la chose se faire, il laisse mûrir aussi son ressenti. Et quand on lui disait « Non, on peut pas faire comme ça », il disait « Pourquoi ?» Et je pouvais pas répondre à cette question. Donc je me disais, bah oui, finalement, on peut peut-être faire comme ça, et essayons de faire comme ça. Et il voulait plus aller dans les clichés des choses qui rappelaient d'autres choses. Il voulait vraiment être libre, partir dans la poésie pure. Donc, en fait, finalement, on se retrouvait sur quelque chose de contemporain. Moi, je n'écoute pas de musique contemporaine du tout. Et je me retrouve à faire quelque chose de contemporain, finalement, malgré moi. Donc, c'est le fait d'être rentré dans ce que voulait Alain, et tout par presque le non-dit, quoi.
Par ma cornue, j'y ai versé 6 gouttes de ciguë. Un peu d'espoir, ça a des épaisseurs. Et j'ai touillé. Du fond de ma boutique, monte un cantique. Un hymne à l'amour, orifère, ébullition, réaction.
faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans ma cornue, j'y ai versé une pincée d'orgueil mal placée, un peu de gâchis, un souvenir de ton corps. Dans ma cornue, j'y ai coulé une poignée de rage. Dans ma cornue, j'y suis tombé. Quelle autre solution que de se dissoudre? Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans les faubourgs, je décante. Le soir, à la lune montante, au matin, je reprends connaissance. Ébullition, réaction. Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Faites monter. Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Faites monter.
Bachung. Bachung. De l'aube à l'aube. France Inter.
Aujourd'hui, l'ultime imprudence de Monsieur Bachung.
J'avais en tête, je regardais à un moment donné, je regardais presque que des films en noir et blanc à une époque, quand j'écrivais cet album.
Bachung. Archive Radio France.
Je trouvais que les films en noir et blanc étaient presque les seules fictions, les vraies fictions, parce que le reste ressemblait trop à la vie. Alors je voyais ces des flashs comme ça, je voyais des éclairages très contrastés, comme chez Orson Welles, ou avec des héros ou des valeurs de cette époque-là. C'est souvent pour faire un parallèle avec une autre époque. Est-ce que ces sentiments peuvent être encore vivables aujourd'hui? Est-ce qu'il en reste quelque chose parfois? C'est des questions comme ça. Hein. Quelle est la possibilité de l'imprudence aujourd'hui encore? Est-ce qu'on peut être encore imprudent avec des conséquences pas forcément négatives? Parce que dans l'imprudence, il y a aussi des initiatives qui peuvent éventuellement apporter des idées ou des solutions. C'est pas que négatif. Alors, si toute idée d'initiative se ferme, j'ai l'impression qu'on vit ça un peu. Donc, je parle des risques financiers, des risques de tous ordres.
Mais vous pensez que c'est une époque de quoi? De fermeture, de régression? D'un point de vue politique, pour dire les choses clairement?
Ah oui, moi je trouve, oui. Il y a quelque chose qui est certainement de l'ordre du raisonnable, peut-être, mais il n'y a pas parallèlement un projet magnifique pour arriver. C'est que des contraintes et rien qui contrebalance des demandes de sacrifices ou d'efforts ou de contraintes. Je trouve ça parfaitement malhonnête.
On voit bien que pour votre travail, s'agissant d'Alain Bachung, il fallait lui laisser une liberté quasi totale. Ouais. Est-ce que vous avez, à un moment ou à un autre, dû mettre des limites à cette liberté ?
Les limites à cette liberté, elles ont peut-être été parfois financières. Il faut bien en parler.
Olivier Caillard, directeur du label Barclay.
Alain, on était conscients de tout ça, hein, mais par moments, c'était très compliqué de parler. Moi, j'aime pas parler d'argent à un artiste. À un manager, c'est pas un problème. Il n'en avait pas. Donc, j'étais obligé de lui parler de tout, Alain. Et effectivement, lui dire, attention, Alain, là, il y a peut-être une limite financière, à commencer à envisager une limite financière, faire attention à structurer un peu notre méthode de travail. On peut pas tâtonner en studio pendant 6 mois. C'est pas possible. On peut tâtonner chez toi, dans ton petit studio, et une fois qu'on sait, on y va. Mais voilà, c'était des limites financières. Bon, après, là, on a vraiment été utile pour lui, c'est sur les visuels, les vidéos, où là, il était vraiment en attente de nous, sur la musique. De toute façon, qu'est-ce que je peux dire, moi, Alain Bachung ? Regardez tous ses albums. Après, on parlait de quoi ? De choix de single, d'options de mix, de choses comme ça. Mais la trame de l'album, elle était là, et il y avait qu'à dire bravo.
Bachung. Archives Radio France.
Mais ça, c'est quand même ce qui est dément chez vous, parce que quand on écoute tous vos albums, et alors le dernier en particulier, on se dit c'est un chanteur expérimental qui touche aussi le grand public. Et alors ça, être expérimental et populaire, c'est quelque chose d'un peu rare. Hein.
Alors ça, si j'ai un petit peu d'orgueil à avoir, c'est peut-être ça. Hein. Ça, c'est pas évident, effectivement, d'être un peu connu et de continuer à essayer des trucs inattendus, enfin... Ça me rend assez fier, ça. Mais c'est mes goûts de liberté, ça. Je me dis, si je dois faire l'artiste, il faut que je montre aux gens que je suis un peu libre. Si je ne montre pas ça, il faut que je reste chez moi.
Arthur, fils d'Alain Bachung.
Il a toujours fait ce qu'il voulait. Et il a réussi à concilier un peu ce truc. C'est presque impossible en France aujourd'hui, puisque, bon... Il y a celui qui va marcher dans le système, et il y a celui qui va se complètement désolidariser du système, et du coup qui va se retrouver non médiatisé, non vendu. Alors que lui, vraiment, a su concilier les deux. Il a su attirer un public qui était vraiment contre le système musical aujourd'hui, capitaliste, universel, et en même temps être respecté de tous les gens qui font partie de ce milieu-là. Et enfin voilà, il a vraiment su réconcilier les journalistes musicaux puritains avec les journalistes musicaux qui relatent toutes les sorties d'albums. Et raison pour laquelle je suis si fier de lui, c'est qu'en plus il a pas fait de la merde à chaque fois. Il a travaillé avec de très gros moyens, dans les meilleures conditions possibles, tout en restant un inconditionnel hors la loi entre guillemets par rapport à ce qu'eux attendaient, en tout cas les maisons de disques. Je pense qu'avec beaucoup de travail, il a réussi quand même à être accepté, à ce qu'on lui donne les moyens, à ce qu'on lui fasse confiance, et ça surtout, à ce que les maisons de disques lui fassent confiance, même si ils avaient toujours les boules. C'est quand même rare une maison de disques qui débloque des fonds et qui rallonge des jours de studio sans avoir aucune idée de ce qui va ressortir, et qui ont juste à se dire, voilà, c'est Alain, on sait qu'il y a un truc qui va sortir, quoi.
Par la meurtrière, guette l'ennemi, guette l'amant. Après la colline, j'y suis. Par la meurtrière, guette l'horizon. Guette la vie. Je n'attendrai pas l'automne. Ces sonates à mon sonotone. Je n'attendrai pas que s'abaisse le pont-levis. Je suis les îles, je suis les ailes, je suis la ficelle qui se tend. Je suis pas cruel, juste violent. Meurtrière guette l'infidèle, guette l'indécis après la colline. J'y suis. Par la meurtrière guette l'hérésie, guette la vie. Je suis le fiel, je suis la ficelle qui se tord. Je suis pas cruel, juste violent. N'attendrai pas qu'on me sonne, je n'attendrai pas qu'on me pardonne. Du sais-je boire le dédouf, du sais-je croiser le fer avec ton majordome.
Bachung. De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Suter et David Golan.
Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques, réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Croballion et Ralph Dallaire.